Les grands titres de ce dimanche, en Espagne, à Barcelone, la marche pour la paix et contre le terrorisme, la rentrée politique en France, la Vuelta, 8e étape du Tour d'Espagne, remportée par le Français Julien Alaphilippe. En Espagne donc, à Barcelone, des milliers de personnes ont marché pour la paix et contre le terrorisme avec des bannières qui scandaient « Nothing por », « Nous n'avons pas peur » en catalan. Cette marche, après les attentats qui ont fait 15 morts et 126 blessés en Catalogne les 17 et 18 août derniers. Reportage François Musso pour Radio France Internationale.
La marche unitaire a bel et bien existé, mais pas à tous les niveaux. En tête de cortège, on a pu assister à une union sacrée avec les pompiers, les policiers, les hôteliers, les chauffeurs de taxi, tous ceux qui, peu après les attentats du 17 août, ont porté secours et se sont montrés solidaires avec les parents des victimes ou les blessés. Derrière eux, une unité institutionnelle réunissant le roi Philippe VI, le chef du gouvernement espagnol Rajoy et le chef de l'exécutif catalan Puigdemont. C'est la première fois qu'un monarque espagnol participait à une marche. Mais pour l'essentiel, derrière, on a entendu d'autres revendications. Le consensus contre le terrorisme et le rejet de la violence se sont mêlés à la revendication nationaliste. On a pu voir d'innombrables drapeaux catalans séparatistes, d'innombrables slogans contre le roi, contre le pouvoir central à Madrid. On a pu entendre de la colère contre l'État espagnol. Par milliers, on s'est autant déplacé ici pour dire non au djihadisme que pour dire oui à l'indépendance.
François Musso pour RFI. L'ouragan qui a frappé le Texas, le plus puissant en 50 ans, a fait pour le moment un mort dans la ville de Rockport. 1800 soldats ont été déployés pour aider dans les opérations de secours. Les risques d'inondation inquiètent les autorités. Écoutez le gouverneur du Texas, Greg Abbott.
There is the potential for very dramatic flooding. It's essential for people who are near those flood zones to do several things. One is to obviously be aware of your surroundings. Two is to listen to warnings given out by local officials and heed those warnings. And three, whenever you do venture out by car or any other way, be very cautious, knowing that not only is it rising water, but oftentimes it will be swift moving water that can carry you away.
Le gouverneur du Texas. En Australie maintenant, avec les demandeurs d'asile qui ont été transférés depuis Manus Island et Nauru en Australie pour des raisons médicales, verront leur soutien financier coupé dès demain, lundi, par le gouvernement fédéral. Une centaine de demandeurs d'asile seront affectés par cette décision et auront à trouver un logement sans le soutien gouvernemental. Écoutez le ministre des Anciens Combattants, Dan Tehan, qui était sur Sky News ce dimanche.
What we're saying to those people is that you will not be able to resettle here in Australia. You will need to go back to Manus or Nauru or to other countries who will accept you. Now, we will provide Medicare support where it's necessary, but we want these people, until they go back, to be getting a job. This is part of the policies which has kept Australia's immigration system intact, which has defeated the people smuggling model, and we will continue to implement it.
Le ministre des Anciens Combattants. Les travaillistes de l'opposition fédérale ont réagi. Richard Miles déclare que le gouvernement a le devoir des obligations de soins envers ses demandeurs d'asile. On l'écoute.
People, be it in Australia or indeed on Manus and Nauru, Australia has an obligation to provide care. There is a duty of care which needs to be fulfilled in respect of those people, and I think the government needs to be very mindful in respect of how that duty of care is being fulfilled in respect of those that are referred to in the reports this morning.
Voilà le travailliste Richard Miles. Alan Tudge, le ministre de la politique familiale, a défendu le projet du gouvernement fédéral de tester les demandeurs d'emploi pour la drogue. Ceux qui le testent positif pour la drogue verront leur allocation chômage suspendue et cet argent ne peut pas être utilisé pour acheter de l'alcool ou des drogues. On écoute Alan Tudge sur Sky News.
50% of them are saying they're taking fewer drugs by being on cashless welfare. We know that providing some lever to encourage people into treatment can work as well. Indeed, the judicial system uses that on a very regular basis. So there's evidence to support each of the components of our drug testing regime. Together, we've never done it before, but surely it is worth giving it a go.
Le ministre de la politique familiale, l'ACTU, le conseil des syndicats en Australie, demande à ce que les travailleurs puissent réduire les heures de travail s'ils ont des responsabilités parentales ou s'ils doivent prendre soin de leurs parents. Un sondage de 5400 personnes montre que 85% de ces gens qui ont des responsabilités significatives pour prendre soin de leur famille, 60% de ces personnes sondées ne demandent jamais une réduction de leurs heures de travail par crainte de perdre leur emploi. Ged Kearney est la présidente de l'ACTU et elle parle d'un cas en commun qui sera présenté au Fair Work Commission.
Well, Australia's workforce is dominated by working people who are juggling work and caring responsibilities. So Australian unions are going to put a test case to the Fair Work Commission whereby workers have a right to reduce their hours if indeed they have caring responsibilities.
La présidente de l'ACTU. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, promet d'établir un fonds de 1,6 milliard de dollars en infrastructure pour le manque à gagner de la TVA, la GST, pour l'Australie occidentale. Il a fait cette promesse lors de la conférence des travaillistes à Perth ce week-end.
The Shorten Labor government will invest no less than $1.6 billion in a new fair share for WA fund. In our first budget, full stop, let's get on with it. This funding is above and beyond the existing Commonwealth contribution. It is an invaluable chance to bridge gaps in our states, in your state's infrastructure.
Voilà, c'était le chef de l'opposition fédérale, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre des Armées, Florence Parly, étaient à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Ils ont rencontré le président du gouvernement régional. Le référendum pour l'indépendance du Kurdistan irakien aura lieu le 25 septembre prochain. Washington voudrait que les Kurdes retardent la date du référendum. Les précisions de Tudor, Tepeneag pour RFI.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre des Armées, Florence Parly, ont été précédés de quelques jours à Bagdad, mais aussi à Erbil, par le chef du Pentagone. Ce dernier avait essayé de dissuader les responsables kurdes de maintenir au 25 septembre prochain la date de leur référendum pour l'indépendance. Les Occidentaux voudraient qu'il soit repoussé de plusieurs années et invoquent plusieurs raisons. Les risques que cette consultation ferait peser sur la campagne militaire contre l'organisation terroriste État islamique et aussi le risque de déstabilisation l'Irak avant les élections de 2018. Pour l'instant, les Kurdes ne semblent pas vouloir obtempérer, faute d'assurance forte de la part des Occidentaux concernant leur aspiration à l'indépendance. Ils ont un atout majeur qu'ils viennent de gagner par les armes, la reconnaissance de leur engagement du côté de la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique, notamment pour la libération de Mossoul. Mais cet atout pourrait s'amenuiser avec le temps, alors que la Turquie voisine restera toujours décidée d'empêcher coûte que coûte la formation d'un État kurde dans la région. L'Iran s'y oppose aussi et le seul soutien, du moins financier, pourrait venir de l'Arabie saoudite. Reste à savoir quelle sera finalement la position des Occidentaux.
Tudor Tepeneag pour RFI. En France maintenant, avec la rentrée politique et le Parti socialiste veut se reconstruire, les socialistes étaient réunis ce week-end en séminaire à huis clos à Paris. Reportage Valérie Gasse pour RFI.
Le Parti socialiste ne voit plus la vie en rose après une année électorale calamiteuse, mais pas question pour autant de baisser les bras. Christian Paul, l'un des chefs de file des frondeurs battus aux dernières législatives, définit une urgence à l'heure de la rentrée politique.
Montrer que la gauche ne meurt jamais, et la première façon de le faire, c'est d'être clairement dans une opposition intelligente, mais totalement déterminée, devant un gouvernement qui, lui, commence quand même à renier ses engagements.
Luc Carvounas, ancien sénateur et nouveau député PS du Val-de-Marne, insiste sur la déconvenue des Français depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
Est-ce qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron pour que, à partir du moment où vous touchez 1201 euros de retraite, vous allez avoir vos impôts augmentés avec la CSG de près de 2 points?
Mathias Fekl, dernier ministre de l'Intérieur de François Hollande, espère lui aussi refonder la gauche.
L'enjeu, c'est de transformer le PS de fond en comble, d'en faire un socle qui permette demain de construire la maison commune de toute la gauche face à un pouvoir brutal, arrogant. C'est à nous de redevenir le plus vite possible une force d'opposition et de proposition.
Et pour ça, avant de changer de nom ou de choisir un nouveau leader, le PS doit trouver des idées.
Un reportage de Valérie Gasse pour RFI. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon se réunit ce week-end à Marseille. Anthony Latier est sur place pour RFI.
Un programme commun, une plateforme internet et des initiatives locales. Marion, militante de 21 ans, veut que la France insoumise conserve son originalité.
On veut s'assurer de garder une place en tant que militant. On ne veut pas le cliché du parti qui va tout diriger avec des petites mains en bas qui vont être chargées de distribuer les tracts et tout. Nous, on veut être des petites mains, mais on veut aussi être des cerveaux qui réfléchissent et qui contribuent au projet, quoi.
Léo, la trentaine, venu de l'Aveyron, insiste lui sur la souplesse du mouvement.
Si moi, par exemple, je ne veux pas me sentir forcé de participer au mouvement pendant 6 mois et puis je veux revenir dans 6 mois plus tard, je dis pourquoi pas, quoi. Je veux pas qu'il y ait de blocage là-dessus et pas de jugement, quoi.
Surtout ne pas faire un parti comme les autres. Pour la députée Clémentine Autain, il est important de faire vivre la France insoumise sur le terrain.
Nous, on veut pas refaire la gauche plurielle. On veut fédérer le peuple, et pour agréger le peuple, il ne suffit pas de rassembler les courants politiques existants. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est le mouvement, pas simplement à l'intérieur de l'organisation, mais dans la société.
Qui prendra la tête de ce futur mouvement? Les discussions sont en cours. Le rôle de Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore défini.
Anthony Latier pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 22 degrés, Adélaïde 12 degrés, Melbourne 11, Hobart 9 degrés, Canberra 10 degrés, Sydney 18, Brisbane 24, Cairns 28, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. En Espagne, à Barcelone, la marche pour la paix et contre le terrorisme. La rentrée politique en France, la Vuelta, 8e étape du Tour d'Espagne, remportée par le Français Julien Alaphilippe. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench